Il fait beau dans nos cœurs, il y a le soleil de Dieu. On bénit le Seigneur pour le printemps, pour l'explosion de vie, mais on bénit le Seigneur aussi de ce qu'il veut faire éclater sa vie dans nos cœurs. Et on a chanté des chants ce matin qui élèvent son nom, et particulièrement j'ai relevé les paroles d'un des chants que nous avons chanté. L'ange de l'Éternel se tient près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Oh, glorifions son nom ensemble, que ma louange élève le Seigneur. Je crois qu'il y a une chose qui est importante que nous pouvons faire, c'est nous souvenir que le nom de Dieu et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un nom puissant. C'est un nom qui amène toujours la victoire. Et je bénis Dieu pour ce nom qui nous a été donné, et nous pouvons utiliser ce nom, non pas comme une formule magique, mais lorsque le nom de Jésus est prononcé, l'enfer tremble. Le diable n'aime pas le nom de Jésus. Il a en horreur ce nom. Mais nous voulons le proclamer parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est puissance, force, liberté. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. En ce début d'année, avec Mathieu, on a suivi 3 semaines de jeûne de Daniel. Et pendant ces 3 semaines, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé d'une façon particulière et sur un sujet que je vais partager avec vous ce matin. On a eu l'occasion de le partager à Fontenay il y a quelques semaines. Et puis je bénis Dieu aussi pour plus tard, on est allé à 7. Et encore une autre couche a été rajoutée sur tout ce que le Seigneur nous avait révélé au travers de ce serviteur qui était puissamment inspiré par Dieu. Donc on bénit Dieu pour Joseph Matera. Mais c'est pas lui, c'est en janvier vraiment qu'on a reçu cette révélation. Et la Bible nous dit dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et bien souvent, ça vous est arrivé certainement de lire votre Bible, puis vous tombez sur un passage, vous ne le comprenez pas trop, et vous continuez votre lecture. Puis vous revenez sur ce passage plus tard, et les choses n'ont pas changé. Vous ne comprenez toujours pas ce que vous avez lu, et vous passez encore à autre chose. Et j'aime bien dans la parole de Dieu, lorsque dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu ouvre l'esprit de ceux qui sont là pour qu'ils écoutent la parole, mais pour qu'ils la mettent en pratique. Il ouvre l'esprit. Et je prie ce matin pour que notre esprit soit ouvert par lui, pour que nos cœurs soient ouverts par lui. Vous vous souvenez Jacob, lorsqu'il a eu un songe à un moment donné? Et il a eu ce songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et Jacob de crier que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte du ciel, l'entrée du ciel. Et je voudrais vraiment m'appuyer sur cela pour vous dire que Dieu veut se révéler à nous ce matin d'une façon particulière. Et nous faire comprendre que nous sommes vraiment dans le timing de Dieu. Et je bénis Dieu pour ces temps que nous vivons, même si ce sont des temps difficiles. La Bible nous parle des temps de la fin où il y aura des famines, des tremblements de terre, il y aura des catastrophes, il y aura aussi beaucoup plus de violence, les enfants rebellent à leurs parents. On lit tout cela dans la parole de Dieu, mais on est en train de le vivre exactement maintenant. Mais ce qui compte, c'est que nous continuions en tant qu'Église à être celle de lumière, celle et lumière de la terre. Et je bénis Dieu pour la ville de Guebwiller, où il y a l'entente des églises chrétiennes de Guebwiller qui se réunissent à différents moments de l'année. Ça a été le cas la semaine dernière pendant les fêtes de Pâques, où chaque soir nous avions une veillée ensemble. Et puis lundi, on s'est retrouvés au temple et on était encore tous ensemble. Et on a célébré cette résurrection en disant « Il est ressuscité, Jésus est vraiment ressuscité ». Alors merci Seigneur pour tous ces moments que nous avons passés ensemble dans l'unité, dans la communion fraternelle, mais c'est une force pour cette ville. C'est une force pour nos autorités. Et je bénis Dieu pour cela. Alors j'aimerais vous entraîner dans un texte ce matin qui se trouve dans Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17, où il est question d'un événement important, un événement qui a marqué certainement nos consciences quand on a vu que Jean-Baptiste est venu et il a annoncé quelque chose de puissant Après moi vient, parce que Jean-Baptiste est venu pour ouvrir la voie du Seigneur, pour préparer le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et à un moment donné, on voit quelque chose d'étrange, on voit Jésus qui vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Alors moi je me suis posé longtemps cette question, je me dis mais quand on parle du baptême, quand on instruit les gens au niveau du baptême d'eau, on leur dit que le baptême il est fait parce que nous étions pécheurs et que nous avons été délivrés par la main de Dieu de la puissance du péché et maintenant ayant accepté Christ dans nos vies comme sauveur, nous le reconnaissons comme Seigneur et nous prenons le baptême. La confession de foi, c'est de dire, j'étais pécheur, mes péchés ont été effacés, je suis pardonné, et donc on plonge la personne et on dit aux néophytes qui sont préparés par le baptême, pour le baptême, on plonge la personne, il y a une mort au passé, et on relève la personne, signe de la résurrection, une nouveauté de vie avec Christ. Alors on va lire ces passages, donc Matthieu 3, verset 13, jusqu'au verset 17. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus y répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Écoutez la suite. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on peut lire donc... un petit peu plus loin, dans un autre chapitre, on peut lire que, dans la parole de Dieu, disons, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a été enfanté par le Saint-Esprit, Marie a été enfantée, a été fécondée par le Saint-Esprit, et donc on lit ces passages, on lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Il y avait donc une élection sur lui, une onction particulière sur Jésus. Mais on voit que rien ne se passe réellement pendant quelques temps. On voit que Jésus grandit, bien sûr, et à l'âge de 12 ans, vous vous rappelez cet épisode où les parents sont venus à Jérusalem pour adorer, et à un moment donné, ils quittent Jérusalem après la fête, mais ils ne savent pas que Jésus, lui, est resté dans la ville. Et au bout d'un moment seulement, peut-être un jour ou deux plus tard, ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas avec eux. Ils le cherchent partout, ils ne le trouvent pas. Ils retournent à Jérusalem et là ils trouvent Jésus qui est en compagnie de personnes qui connaissent la loi. Et on lit au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Vous ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Waouh ! Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Alors ce que j'aimerais dire ce matin, c'est ceci. C'est que Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde, pour gagner le monde. Et il lui a fallu 30 années de préparation. 30 années où il a observé le monde, il a vu la méchanceté autour de lui comme nous on peut le voir aujourd'hui, il est allé à la synagogue, personne ne croyait au miracle, il a rencontré certainement des démonisés, il a assisté certainement à des services d'inhumation, tout ça s'est passé pendant ces 30 ans, c'est long, et il en a vu des choses. Mais est-ce que vous voyez dans la parole de Dieu quelque chose qu'a fait Jésus particulièrement, non. Et on arrive à ce passage parce qu'il a été dépassé par ce qu'il voyait, par ce qu'il rencontrait, et certainement en voyant ces choses, il a dû être affecté dans sa chair. Mais regardons ensemble, dans le Jourdain, Jésus descend comme fils de Marie et bien sûr de Joseph. Mais comme fils de Marie, et quand Jésus tourne le dos à la maison de Marie et de Joseph, il est en train de descendre dans l'eau. Et quand il descend dans l'eau, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les gens voyaient? Ils voyaient Jésus, le fils du charpentier. L'homme ordinaire, celui qu'on côtoyait tous les jours, qu'on voyait dans la ville, c'était Jésus le charpentier qui descendait dans l'eau. On le connaissait comme fils du charpentier, fils de Marie et Joseph. Il entre dans le Jourdain comme un homme normal, ordinaire. Mais mes amis, c'est là que j'ai réalisé cette phrase qu'on a lue tout à l'heure. Le Jourdain, pour nous, c'est l'eau du baptême, c'est comme une tombe. On meurt au péché, on ressuscite en nouveauté de vie avec Christ. Eh bien, pour Jésus, le Jourdain, ça a été aussi sa tombe, son défi. Que s'est-il passé dans le Jourdain? Le baptême n'est-il pas, et c'est là que souvent j'ai réfléchi à ceci, mais pourquoi Jésus, il a demandé à être baptisé, lui, le juste, lui qui n'avait jamais péché, pourquoi demandait-il le baptême? Le baptême n'est-il pas destiné aux pécheurs? Alors pourquoi Jésus descend-il dans les eaux du Jourdain? Eh bien la réponse c'est pour mourir à lui-même. Jésus meurt avec sa filiation avec Marie. Et au sortir de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, le ciel s'ouvre. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Le dessein de Dieu, la destinée de Jésus est en train de s'accomplir, mes amis. Et quand Jésus reçoit le Saint-Esprit sous forme d'une colombe, le Père dit depuis le ciel qui est ouvert maintenant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus entre dans le Jourdain comme fils de Marie, mais il ressort du Jourdain comme fils du Dieu vivant et automatiquement, mes amis, les choses changent. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle tout cela? Moi, ça me réjouit de savoir que Jésus est passé par les eaux du baptême parce qu'il voulait maintenant entrer pleinement en obéissance à ce que le Père lui demandait de faire. Ça a mis 30 années. Mais au bout de 30 ans, le ciel s'est ouvert. Et je bénis Dieu parce que on commence à voir les choses changer. Et c'est cela la destinée d'un homme. Un homme, une femme, doit rencontrer le Saint-Esprit. Et Jésus était saint, sans péché, mais jusque-là, il ne pouvait rien faire. Pourtant, on l'a dit, il a assisté à des enterrements, il a vu des démoniaques, il a rencontré des malades, peut-être des infirmes aussi, mais rien ne s'est passé. Il sort du Jourdain, et qu'est-ce qui se passe quand il sort du Jourdain? Il est conduit par l'Esprit dans le désert, et vers la fin des 40 jours, il est tenté. Il est tenté par qui? Il est tenté par le diable. Et j'ai beaucoup aimé lorsque Joseph Matera nous a rappelé l'histoire du premier Adam, où il était placé dans ce jardin magnifique, le jardin d'Éden, et Dieu l'avait placé là pour le cultiver et pour le garder, ce jardin. Mais il a reçu de Dieu toute autorité pour donner les noms aux animaux, etc., pour garder le jardin, pour le cultiver et pour étendre le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme a été placé dans ce jardin, et lorsque Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie pour qu'il devienne un homme, que s'est-il passé? Genèse 3, le diable s'est présenté sous la forme d'un serpent, et il a commencé à séduire Adam et Ève pour faire échouer le plan de Dieu. Alors bien sûr, on peut voir ce récit comme, on le lit comme quelque chose peut-être d'ordinaire pour nous, mais il y a vraiment une signification. Chaque fois que Dieu met en ordre quelque chose de puissant, le diable vient pour détruire ce que Dieu met en place. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé à vous, en tant que chrétien, lorsque vous avez décidé de prier, de rencontrer Dieu, de passer du temps dans son intimité, dans sa présence, de lire sa parole, de méditer cette parole, de prier, est-ce que ça ne vous est pas arrivé de tout à coup de voir que les choses changent pour vous? Il y a de l'opposition, il y a des luttes qui viennent alors qu'elles n'existaient pas avant. Pourquoi? Parce qu'avant vous ne troubliez pas l'adversaire. Mais dès que vous avez commencé à rechercher la présence de Dieu, à rechercher sa direction pour votre vie, l'adversaire s'est levé pour vous combattre. Il n'aime pas cela. Et il va combattre toute personne qui essaye d'avancer dans ce chemin-là. Alors, bien sûr, lorsque Jésus est sorti de Jourdain, il est conduit par l'Esprit dans le désert, et il a passé un temps de jeûne. On ne sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand on jeûne, on n'a pas besoin de dire autour de nous ce qui se passe. C'est entre Dieu et nous. Mais quand Jésus sort de l'eau du Jourdain, Satan vient en personne le rencontrer. Il rencontrait Jésus, cet homme qui est devenu dangereux pour lui. Satan n'a pas attaqué Jean-Baptiste. Satan n'a pas attaqué Nicodème. Satan n'a pas attaqué Anne ni Caïphe. Non, non. Mais quand Satan a vu ce monsieur sortir de l'eau et aller jeûner, il s'est adressé aux démons en leur disant ceci: arrêtez-vous, c'est moi maintenant qui vais le rencontrer face à face. Mais Satan va apprendre à ses dépens que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et obéit à Dieu, Satan entre dans la défaite. Jésus va parler à Satan et va lui citer la parole de Dieu, et il va dire à chaque fois: il est écrit. Et mes amis, ça c'est puissant. Nous avons la parole de Dieu. Elle est sur vos genoux en ce moment. Elle est ouverte devant vous. Mais c'est une parole qui est puissante. Lorsque nous la citons, le diable est obligé de reculer et de quitter le territoire. Alors Satan de penser, mais il y a méprise. Il est écrit, il y a eu le premier Adam, il a eu peur de moi, Ève aussi. Mais lui, il se met à dire, il est écrit. Satan attaque encore et il lui dit, mais je vais te montrer qui je suis. Il l'emmène sur les hauteurs, il lui montre tous les royaumes de la terre et il dit à Jésus, toi, tous ces royaumes, je te les donne si tu te prosternes devant moi et m'adores. Et Jésus de répondre une fois de plus par « Il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu ». Et alors le diable, voyant que cet homme était dangereux, le laissa. Et vous pouvez remarquer, les anges sont venus et sont venus pour le servir. Mes amis, le temps a passé, ne voulons-nous pas imiter le Seigneur Jésus. Il a utilisé la parole, il a utilisé le Saint-Esprit, il est entré dans sa destinée, et le premier miracle que fit Jésus, ça a été de transformer l'eau en vin. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais Paul également, Pierre qui avait échoué, est entré dans sa destinée. Comment une destinée peut-elle échouer quand une personne obéit à Dieu? Alors donc, mes amis, approchons-nous de Dieu. Vous avez remarqué aussi que dans les évangiles, quand on les lit, les quatre évangiles, on voit que le ministère de Jésus a commencé vraiment fort. On a rappelé, il n'y a pas si longtemps que cela, que Jésus est entré dans la synagogue, on a déroulé un rouleau, on lui a donné, et il lisait Ésaïe 61. Et il dira, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour. Et on retrouve cela dans Ésaïe chapitre 61. Et son ministère a commencé, un ministère de puissance. Et on voit Jésus faire des miracles, guérir les malades, soulager les opprimés, libérer les captifs, ressusciter les morts. Mais au niveau des disciples, on ne voit pas grand chose. Ils sont là, ils observent, ils sont à l'école de Dieu. Juste à un moment, si on voit quelque chose de particulier, Jésus envoie les disciples deux par deux, les 70 là, il les envoie deux par deux avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Alors ils sont partis et ils ont rencontré des malades, ils les ont guéris, ils ont vu des démoniaques, ils les ont libérés, et quand ils sont revenus comment? Pleins de joie en disant « Maître, même les démons nous sont soumis ». Et Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Dites « Alléluia ». C'est bien, c'est pour savoir si vous dormiez ou pas. Moi je dis Alléluia quand je vois que Satan est défait. Alléluia. Donc il voyait Satan descendre du ciel, tomber du ciel comme un éclair. Et il dira, ne vous réjouissez pas de ce que les démons soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau. Waouh, ça c'est fort, parce que vous savez, lorsque notre nom est inscrit dans le livre de vie, tout est possible. Il va falloir attendre encore du temps. Il va falloir attendre que Jésus monte au ciel. Mais avant de monter au ciel, vous rappelez ce qu'il a fait? il a pris ses disciples, il a soufflé sur eux. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, le souffle de vie. Il a soufflé sur eux et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis, il leur a dit, restez à Jérusalem, ne vous éparpillez pas, attendez. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors ils sont allés, ils ont vu Jésus s'en aller dans les nuées, disparaître. Ils sont allés dans la chambre haute et ils ont passé du temps, une dizaine de jours. Et au bout de 10 jours, tout à coup, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je bénis Dieu de ce que, si le langage a été confondu à la tour de Babel, le jour de la Pentecôte, Dieu leur a donné une nouvelle langue. Et cette langue était connue de tous ceux qui venaient en pèlerinage à Jérusalem, les Crétois, les Perses, les Arabes, etc. Ils entendaient ces gens parler des merveilles de Dieu dans une langue qui était parfaite. C'était les langues de l'Esprit de Dieu qui agissaient. Ils prophétisaient, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et on voit un homme transformé, un Pierre qui avait renié le Seigneur Jésus, qui n'a pas voulu qu'on le mette au même rang que lui, qui avait peur pour sa vie et qui l'a renié pendant 3 fois. Et on voit ce Pierre qui est rempli du Saint-Esprit, et qui va dire à tous ceux qui sont là, ce Jésus, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est là qu'ils ont commencé à trembler. Hommes, frères, que ferons-nous? Vous rendez compte? On a tué cet homme, mais maintenant il est vivant. On dit qu'il est vivant. Et le message est, repentez-vous. Soyez baptisés d'eau, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont appelés en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et c'est là que les choses commencent, mes amis. On voit des choses glorieuses. On voit les apôtres faire des miracles extraordinaires. On voit qu'ils sont persécutés, parce que là, le diable se lève aussi contre les apôtres. On les met en prison, on les fait battre. Et puis quand ils sortent de prison, Ils se réunissent ensemble, ils prient, et là encore, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, afin qu'ils se fassent des signes, des prodiges, des miracles. Le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais c'est merveilleux, mes amis. Ce que je voulais vous dire, c'est que le jour de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert sur les disciples, sur tous ceux qui étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mes amis, j'ai envie de vous dire ce matin, ne priez pas pour que le ciel s'ouvre, parce que le ciel est ouvert. Il est ouvert sur chacune de nos vies. Il est ouvert sur chacun de nos foyers. Il est ouvert sur l'église Josué. Il est ouvert sur les églises qui professent le nom de Jésus. Le ciel est ouvert, mes amis. Et le message que je voudrais vous laisser ce matin, c'est que Jésus, en montant au ciel, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, vous ferez les choses que je fais, mais vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et ce matin, je me prêche à moi-même, je veux raviver la flamme en moi, mais je prie le Seigneur pour qu'une étincelle puisse se produire en chacun d'entre nous. Seigneur, ton ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. Gloire à Dieu pour cela. Et moi, je bénis Dieu pour le fait que le ministère des anges, et il est au maximum en ce moment. Les anges sont au service de Dieu et ces anges sont là pour servir ceux qui servent le Seigneur. Ils montent, ils descendent. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez que le ciel est ouvert au-dessus de vous ce matin? Est-ce que vous voulez dire amen à cela? Et arrêtez de vous faire avoir par le diable qui vous ment et qui vous dit tu as prié, tu as vu, tu as prié. Mais il n'y a rien qui se passe. Eh bien moi je voudrais qu'on mette maintenant au défi tout cela, simplement en nous appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. Et je prie pour que l'église Josué devienne un centre de bénédiction, un centre de guérison, un centre de salut, un centre où la parole de Dieu est prêchée, mais où cette parole est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles, mes amis. Regardez vos mains, regardez-les. Ce sont des mains qui vous servent à tenir le stylo, qui vous servent à mettre la table, qui vous servent à vous laver, qui vous servent à travailler, à taper sur votre clavier d'ordinateur. Ce sont ces mains-là que le Seigneur veut utiliser. Ce sont ces mains-là qui vont se poser sur la tête des malades et les malades seront guéris, mes amis. Ce sont des mains ordinaires, mais Dieu va partir de l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. On parle de l'onction d'huile. L'huile, c'est de l'huile d'olive, vous me direz. C'est de l'huile ordinaire, on fait de la salade avec. Eh bien, on peut oindre des gens avec l'huile d'olive. Et là, le miracle s'accomplit, mes amis. Le symbole du Saint-Esprit est placé sur la personne. Et si on oint d'huile, la guérison est là. La délivrance est là. La liberté est là. Parce que le Seigneur agit au travers de ces signes merveilleux. Alors on va aller maintenant dans Jean chapitre 1er verset 51. Jean 1, 51, c'est la fin d'un chapitre et on est obligé d'après de passer à l'autre. Donc, mais on a divisé la Bible en chapitres pour que ce soit plus facile, mais là ça tombe en plein milieu. Donc on lit la fin du chapitre 1 de Jean et puis on va lire le début du chapitre 2. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur Jésus. Maintenant, on va à Jean, chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, c'est pas long, 3 jours après. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin vint à manquer. C'est dur à dire. Hein. Le vin vint à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Attention, ce n'était pas des petits vases comme ceux que vous avez à la maison pour mettre des fleurs. Hein. C'était des grands récipients de plusieurs centaines de litres. Ça servait aux ablutions, ça servait à la purification. C'était donc de grands récipients. Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, mettez-vous à leur place. Il appela l'époux et il leur dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus était en train de préparer son départ et il y aura quelque chose de nouveau. Quand je vais partir, le Saint-Esprit viendra, le ciel sera ouvert. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu, le ciel est ouvert, le ciel n'est plus fermé. Et moi ça me réjouit, si au moins ce matin vous pouvez retenir cela, le ciel est ouvert. Le ciel sera fermé lorsque Jésus prendra son église et son église glorieuse. Mais pour le moment, pour toi et moi, le ciel n'est pas fermé, le ciel est ouvert. Et Jésus dit, voici le contexte du miraculeux qui demande un certain nombre de conditions et tu dois les accepter une fois pour toutes. Tu dois savoir que, quelle que soit la prière que tu vas faire, n'essaie pas d'ouvrir le ciel. Ne demande pas, Seigneur, ouvre le ciel pour nous. Parce que tu es en train d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. N'allez pas faire des rencontres avec Seigneur, comment tu vas faire? Tu vas ouvrir le ciel enfin pour nous. Non. Que dit Hébreux 1,14? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, ces anges, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On parle très peu des anges. Vous avez remarqué dans nos églises, on en parle. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il y a souvent des manifestations d'anges. Par exemple, lorsque Pierre a été emprisonné, vous savez, à la suite du meurtre par rapport à Jean-Baptiste, qu'il a été décapité dans la prison, Hérode a fait arrêter Pierre, mais certainement il avait en vue de le tuer. Et lui, Pierre, était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Donc il y avait une belle armée qui était autour de lui, de peur qu'il s'en aille, n'est-ce pas? Les portes étaient verrouillées, et en plein milieu de la nuit, que se passe-t-il? Un ange vient dans la prison et secoue Pierre qui était, lui, en train de bien dormir. Je ne sais pas si nous, on aurait dormi dans la prison, parce que sachant que le lendemain, on allait y passer. Mais Pierre, lui, dormait. Simplement, il était entre les soldats et il dormait. Donc, l'ange vient, le secoue, en disant « Réveille-toi, habille-toi, parce qu'on va aller dehors. » Mais Pierre ne comprenait pas trop, mais il suit l'ange. Alors, une première porte s'ouvre. Après, il se retrouve devant une deuxième porte, et puis il se retrouve dans la rue. Et puis, il se dit, mais est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est... Et certainement qu'il a dû se pincer et dire, mais je suis en train de rêver ou c'est la réalité? C'était la réalité. Et que fait Pierre? Ben, il court vers le lieu où il pense trouver ses amis qui sont en train de prier pour lui. Il y avait là une belle réunion de prière. Seigneur, délivre Pierre de la prison! Et tout à coup, toc, 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 on frappe à la porte. Il y a Rode, la servante, qui se lève et qui va à la porte. Oui, qui c'est? C'est Pierre, je suis là devant la porte. Et elle, au lieu d'ouvrir, elle part dans la salle pour dire à ceux qui priaient, Pierre est devant la porte. Oh, mais non, c'est un fantôme. Tu rigoles. Mais Pierre est toujours dehors, il frappe, il continue à frapper. Et finalement, lorsqu'il ouvre, les gens le voient, le miracle, il prie pour quelque chose, et quand l'exaucement est là, il ne croit même pas à l'exaucement. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu ça? Souvent on prie, mais dans notre cœur, on sait que il faudra attendre encore longtemps pour la guérison, quoi. Eh bien non, mes amis, moi je dis, le Seigneur va répondre maintenant. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Ouvre nos cœurs. Et dans la Bible, tu vois le mouvement des anges partout. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Les anges sont là pour les enfants de Dieu. Les anges sont là pour nous. Combien de fois vous avez remarqué que vous avez été protégé d'un accident? Dans la rue, ou un accident de voiture, ou bien un accident domestique, ou un accident dans le jardin, vous avez été protégé. Le ministère des anges. Les anges sont là, mes amis. Et ils nous servent. Ils servent ceux qui doivent hériter du salut. Merci Seigneur pour cela. Alors regardez Jean 1, 51 et Jean 2, 1. Tout de suite, 3 jours après cette déclaration, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a 3 jours que Jésus a dit cette parole. 3 jours après, il y a des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. On n'a pas dit sa tante. Ne méprisons pas Marie, c'était vraiment la mère de Jésus. Et il nous est dit que Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Et on te présente la mère de Jésus et Jésus lui aussi est invité. Est-ce que tu invites le Seigneur dans la place qui lui revient, dans ton cœur, dans ta maison, sur ton lieu de travail? C'est important. Il ne s'agit pas que Jésus soit en toi. Toi, qu'est-ce que tu fais pour activer la présence de Jésus dans ta vie? Le miraculeux ne passe pas s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas la foi qui se manifeste. Et je voudrais tellement, mes amis, que nous puissions être secoués par le Seigneur, pour que nous puissions prendre cette parole que nous connaissons, que nous aimons, la déclarer en étant remplis de l'Esprit de Dieu, la proclamer et voir le miracle se produire, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Elle s'adresse à Jésus. Waouh! Et dans la présence de Jésus, ce vin qui vient à manquer, c'est pas un problème pour Jésus. Et c'est là que je voudrais que nous nous arrêtions. Ceux qui étaient là étaient au courant, mais ils étaient certainement très tendus. Ils murmurent, ils invitent des gens et ils sont incapables de nous servir du vin. On nous dit que le vin est en train de manquer, il va y avoir bientôt la honte au milieu de nous. Et vous connaissez ceci, des phrases, vous en avez entendu dans votre vie chrétienne, on dit qu'il est devenu chrétien et depuis ce temps, il est malade, aucune amélioration. Vous avez entendu ce genre de choses? Ou bien, on dit qu'il est chrétien et on va bientôt le licencier de son travail. Ou bien encore des phrases comme « Oui, Jésus, 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 toujours Jésus ». Il y en a marre d'entendre toujours cela. Le vin vint à manquer. Alors regardons la réaction de tous ceux qui sont là. Il y avait Marie, il y avait Jésus, il y avait les disciples, il y avait les invités, il y avait aussi ceux qui n'avaient pas été invités mais qui profitent de la noce quand même. Donc ils étaient tous là et elle connaît Jésus, Marie connaît celui qui est assis là. Elle n'a pas encore vu Jésus faire de miracles, non, mais elle connaît. Vous rappelez ces petites phrases que vous avez lues ? Marie gardait ces choses dans son cœur. Vous rappelez, ce sont des petites phrases que nous lisons, peut-être nous passons outre. Mais lorsque Marie voit ces choses, quand elle a vu Marie à l'âge de 12 ans, en train de discuter avec intelligence et sagesse avec ses docteurs de la loi, Marie regardait ces choses, elle les gardait dans son cœur. Mais là maintenant, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Femme, dira Jésus, c'est un nom de respect, tu veux que j'intervienne, mais je vais intervenir comment ? Je vais intervenir comme ton fils ou je vais intervenir comme celui qui est venu. Je ne sais pas si vous voyez, mais en partageant ce que j'ai partagé au tout début de ce message, les Écritures nous paraissent autrement maintenant. Il y a des choses qu'on commence à comprendre. Il y a des choses qui sont de l'ordre du naturel et il y a des choses qui sont de l'ordre du spirituel. Femme, si tu veux que j'intervienne en tant que ton fils, moi je n'obéis pas à cela, dira Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Tu m'as reconnu ? Quelle relation y a-t-il entre toi et moi ? Et sur quelle relation veux-tu que je me base pour faire ce miracle ? Vous vous rappelez, quand Marie a reçu l'ange, elle savait très bien qu'elle allait mettre au monde le Fils de Dieu. Qu'il me soit fait selon ce que tu dis, hein, dira Marie. Donc elle se rappelle que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Mais jusque-là, rien ne s'est passé. Et pourtant, ben on voit quelque chose, il faut décoder ces versets pour enseigner les chrétiens, sinon ils ne comprennent pas. Son heure n'était pas venue, mais sa mère insiste, faites tout ce qu'il vous dira. On lit ce verset, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus dit d'abord, mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire, il y a 2 niveaux, il y a le niveau naturel, mais il y a aussi le niveau spirituel. Et certaines phrases que Jésus prononce sont de l'ordre du naturel. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Ça, c'est naturel. Mais cela veut dire, femme, je te respecte en tout, mais pour le ministère, je ne dépends plus de toi. Et pourtant, quand Marie a prié, elle a intercédé, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Il va lui répondre, il va l'exaucer, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Il y a Jésus, il y a Marie, il y a les serviteurs et le miracle. Quelqu'un a intercédé, a supplié et là on dit ce qu'il faut faire, c'est le premier des miracles. Pas le premier miracle, mais le premier des miracles. Oh mes amis, en vous disant cela, combien je brûle d'impatience de nous voir changer de mentalité par rapport à ce que Dieu nous demande de faire dans les temps que nous vivons, les temps de la fin. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit, le feu est descendu d'en haut du ciel, est venu sur nos têtes, a rempli nos cœurs. Est-ce que vous vous souvenez du baptême dans le Saint-Esprit que vous avez vécu ? Est-ce que ce n'était pas un puissant baptême ? Quelque chose de glorieux. Vous avez parlé des choses de langues que vous ne connaissiez pas, mais il y avait au fond de vous une force extra. Moi, je me rappelle de mon baptême dans le Saint-Esprit. C'était extraordinaire. Une force comme j'avais jamais ressenti. La puissance de Dieu était à l'œuvre. Mes amis, on ne va pas parler à l'imparfait. On va parler au présent. Le Saint-Esprit est en nous. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus vit en moi, alléluia. On n'est plus sous l'égide de la loi, nous sommes sous la grâce, mais Jésus nous fait l'immense grâce de vivre dans nos corps qui deviennent le temple du Saint-Esprit. Et le miraculeux ne se met pas en place au hasard, il y a des conditions que tu dois remplir pour cela. Et on ne parle pas de prière ici, tu vas voir souvent le naturel et le surnaturel se côtoyer. Dans le mot surnaturel, il y a 2 mots. J'aime bien dire ça souvent pour plaisanter dans le mot. Il y a le mot nature et il y a le mot sur. Ça veut dire qu'il y a le naturel qui est contrôlé par ce qui est au-dessus, par ce qui est sûr. Et c'est cela que l'on voit. Les vases qui sont là ne contiennent que de l'eau naturelle, mes amis. Ça servait aux ablutions des Juifs, donc c'est de l'eau de la flotte. C'est tout. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche, c'est le vin qui a manqué. Et on veut chercher du vin, pas n'importe quel vin, pas du vin qu'on vient d'acheter, non, on veut du miraculeux. Et il faut d'abord partir de ces choses naturelles, remplissez ces vases, mes amis, ont été fabriqués par les hommes. L'eau, elle vient du puits, et ils l'ont donc puisée pour verser cette eau dans des vases naturels, faits par les hommes. Mais voici le deuxième niveau, on progresse et on va tout doucement vers le miraculeux. Verset 8, puisez maintenant. Waouh, puisez maintenant. On doit avancer étape par étape. Mes amis, imposez les mains aux malades. Mais Seigneur, il y a des moments où on est un peu bloqué par notre aspect naturel des choses. Mais si je pose ma main sur un malade, c'est pas moi qui guéris le malade. C'est pas ma main qui va guérir le malade. C'est la puissance de Dieu qui passe au travers de moi et qui va toucher le malade et qui va le guérir. Et toute la gloire en revient à celui qui a fait le miracle, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Non pas à nous, éternels, mais à Dieu toute la gloire. Moi, je bénis Dieu de ce que mes yeux verront. Parce que vous allez prier pour moi. Et vous allez être rempli du Saint-Esprit, et vous allez libérer mon œil, et je vais voir des deux yeux, comme un jeune homme de 20 ans. Mais grâce à vous, Huguette, tu vas sauter de joie, tu vas faire des rondes avec nous, parce que tu vas être entièrement guéri dans ton corps. Parce qu'on va demander au Seigneur cette grâce de passer au travers de nous. Nous, on va simplement obéir, on posera nos mains, mais les mains vont devenir des mains ointes par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu va passer au travers de nos mains et les malades seront guéris. Les opprimés seront soulagés. Alléluia! Et je dis Alléluia, mais on n'a dépassé pas qu'on peut dire Alléluia, n'est-ce pas? Oh Seigneur, merci. Alors Jésus va dire, puisez maintenant, un deuxième acte normal, mais complètement normal, même les enfants peuvent prendre une gourde et mettre la gourde dans l'eau et puiser de l'eau avec leur gourde, c'est un acte complètement naturel, complètement normal, c'est même un acte de confiance. Troisième niveau, alors là ça se complique, portez-en à l'ordonnateur du repas, je sais pas, mettez-vous à la place vous des gens qui ont puisé l'eau. Voilà, vous êtes la personne qui a puisé l'eau. Puis Jésus, il est en train de te dire maintenant, tu vas aller voir l'ordonnateur du repas et tu vas lui donner. Mais qu'est-ce que j'ai dans mon flacon là? J'ai de l'eau. Le gars, l'ordonnateur du repas, le chef de cérémonie, il est à 15 mètres peut-être. Mais entre là et les 15 mètres que je dois faire, j'ai de quoi me faire peur. Je vais porter de l'eau à l'ordonnateur du repas, mais ce qu'on veut, c'est du vin. C'est pas de l'eau. Remplissez de l'eau ces vases, c'est fait. Puisez maintenant, c'est fait. Allez montrer à l'ordonnateur ou maître de cérémonie. Il veut quoi cet ordonnateur? Il veut du vin. Et nous avons de l'eau. Et regardez comment ça va se passer. N'essayez pas d'analyser, n'essayez pas de comprendre, d'expliquer comment le Saint-Esprit ou les anges interviennent sans que vous sachiez comment. N'essayez pas d'expliquer, mais croyez. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le maître de cérémonie est peut-être à 10-15 mètres, et on leur dit, allez montrer ça au maître de cérémonie. Donc ils ont de l'eau dans les mains, et c'est ça le miracle. Allez-y, ça marche, ça c'est la foi. Ils lui tendent le récipient, et le maître de cérémonie ne sait pas de quoi il s'agit, il prend de la main de ses serviteurs, et on ne te demande pas de faire une démonstration, mais d'agir par la foi simplement. Tu peux t'arrêter là, ton raisonnement va te bloquer. Et souvent, c'est notre raisonnement qui nous bloque. On prie et on arrive au moment crucial où le Seigneur va répondre à notre prière et notre intelligence se met en route, nos pensées se mettent en route et font barrage au surnaturel de Dieu. parce qu'on raisonne comme des humains savent le faire, avec perfection d'ailleurs.
Wow.
Les serviteurs ont dépassé cela, ils ont dépassé leur opinion personnelle, ce que les gens vont penser d'eux, tous les jugements des humains, ils les ont dépassés, ils sont arrivés avec détermination, et l'un d'entre eux l'a fait, le maître de cérémonie prend, il regarde, il boit le vin, il boit une seconde fois, parce que la première fois il se dit « je me suis trompé », et il se trouve que « waouh, ce vin ». Ce vin, comme diraient les gens du Midi, il est extraordinaire. Mais là, il va y avoir problème. Il y a un problème qui se déclenche. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On sert le bon vin, et puis on garde le mauvais pour la fin. Mais là, vous avez fait l'inverse. Vous avez servi le mauvais, ou le vin ordinaire, que vous croyez qui était certainement bon. Mais celui-là, c'est une cuvée que je ne te raconte pas d'où elle vient. Regarde mon frère, ma sœur, quand Pierre se noyait et il a crié « Au secours !» Jésus l'a attrapé par la main et tous deux ont marché sur l'eau pour regagner le navire et pour rejoindre la terre plus tard. Ça, c'est le miracle qui s'accomplit. Et c'est pas Pierre qui a opéré ce miracle, c'est Jésus qui l'a opéré. Regardez la multiplication des pains et des poissons, c'est quelque chose complètement d'incompréhensible. Faites asseoir les gens par rangées de 50, on va leur distribuer ce que le petit garçon vient d'apporter, des pains et des poissons. Et ça se multiplie, et ça se multiplie, et ça se multiplie. Et pour que les disciples comprennent bien, les 12 disciples étaient là, 12 corbeilles pleines, quand tout le monde a été rassasié. Quand on dit rassasié, ça veut dire que le ventre était bien, bien, bien arrondi par la somme de nourriture qu'ils avaient avalée. Quand je vois tout cela, je dis, mais Seigneur, on est dans le surnaturel. Vous ferez les choses que je fais, et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dieu met son sceau sur le naturel, car le naturel ne peut produire cela. Le maître de cérémonie dit, depuis que je suis maître de cérémonie, jamais je n'ai bu un vin aussi bon que celui-ci. Alors Seigneur, merci pour les miracles que tu nous donnes de faire. Et ces miracles seront là pour te glorifier, Seigneur. Nous bénéficions de cela, mais la première des choses, c'est que Jésus soit glorifié. Ne cherche pas des miracles pour toi-même, pour te vanter. Cherche des miracles, non pas pour toi-même, pour que Jésus seul soit glorifié. Cherche cela pour la gloire de Jésus, et pour que lui seul soit. Mes amis, on a parlé de l'église Josué comme étant un centre apostolique, un centre... Un endroit où les choses vont converger. Je voudrais vraiment en esprit ce matin et avec vous poser cette pierre et dire cette église. Et l'église, c'est pas le bâtiment, parce que ce bâtiment, merci Seigneur, on est dans le collège Daniel, mais on va retrouver ce bâtiment que nous avons délaissé pendant quelque temps, mais on va le retrouver. Mais c'est pas ça l'église. L'église, c'est nous. L'église, ce sont les pierres vivantes que nous sommes. Et je veux dire que cette église va être puissante entre les mains du Seigneur pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Et je le dis devant Dieu mon Père, devant Jésus-Christ son Fils bien-aimé et en présence du Saint-Esprit. Je délie l'onction de miracle au milieu de nous. Je libère la puissance de Dieu au milieu de nous ce matin. Et je dis que les miracles viennent maintenant. Les miracles arrivent maintenant. Et si tu fais cela, mon frère, ma sœur, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas être dans la paix. Tu vas être dans la joie. Je suis en train d'apprendre, je veux débroussailler le terrain du miraculeux, du surnaturel, alors que je ne vois que d'un œil, je vous parle du surnaturel. Mais que cette mentalité du miraculeux s'installe au milieu de nous, que chacun croit qu'il est un instrument du miraculeux, un instrument que Dieu veut utiliser pour accomplir du surnaturel et que les gens commencent à agir sur la base de cela dans leur vie personnelle, dans leur foyer, avec leurs enfants, avec leur famille inconvertie, qu'il y ait des choses qui se passent et qui bousculent l'adversaire. Tu peux prier pour quelqu'un qui va guérir, c'est pas toi qui va expérimenter cette guérison, c'est le Seigneur au travers de toi. Je parle dans ta vie personnelle, je parle de tes problèmes personnels, je parle de tes problèmes financiers, de tes problèmes de maladie, des problèmes de mésentente. C'est toi qui vas expérimenter cela. Les parents vont expérimenter cela. L'atmosphère de notre église change aujourd'hui, mes amis. Notre atmosphère est en train de changer. Les parents vont expérimenter cela. On n'a pas besoin de courir après les gens. On va voir quelqu'un. Tu es malade ? Mon frère, ma sœur, tu es malade ? Alors viens mon frère, tu es malade. On va t'imposer les mains. La foi est là. Et la foi va déplacer les montagnes. Pas besoin d'attendre que ce soit le pasteur, l'ancien. Non, on va, nous, peuple de Dieu, accomplir la parole de Dieu par des actes courageux, mais des actes qui entraîneront la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut que nous osions faire des choses que jusqu'ici nous n'avons jamais osé faire. Au nom de Jésus, on va prier ensemble, mes amis. Alléluia. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole de grâce, merci pour ta parole de vie. Merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais. Amène chacun ici, ceux qui sont assis dans cette pièce, mais amène ceux qui écouteront ce message et qui ne sont pas là ce matin. Seigneur, tu connais les causes. Que ce simple cours, que ce simple partage puisse partager, parler à leur cœur, saisir leur cœur et qu'ils découvrent la réalité du miraculeux avec le peu qu'on a pu dire ce matin et que leur mentalité soit saisie par le Saint-Esprit pour être des instruments de bénédiction. Je prie pour que notre mentalité change. Je prie ce matin pour que nous puissions voir avec les yeux de la foi et non pas avec les yeux de la chair. Que nous puissions voir les victoires d'avance et que lorsque nous prions, les choses se manifestent. Au nom de Jésus, tu es fidèle et ta grâce, Seigneur, elle est surabondante. Tu nous guides, tu nous gardes. Ta grâce surabonde dans la vie de chacun. Les jeunes comme les aînés, les femmes, les hommes, tu les utilises avec joie pour qu'ils puissent, alléluia, glorifier ton nom. Merci Père pour tout cela. Sois béni, sois loué. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié ce matin. Et nous disons Amen. Alléluia, recevez ce matin, recevez par la foi, recevez l'ordre du surnaturel maintenant, recevez cette dimension au nom de Jésus. Soyez saisis par le Saint-Esprit. Alléluia. Et que ce que vous appeliez impossible devienne une réalité du terrain au nom de Jésus. Soyez bénis, mes amis. Amen.